Moi, j'ai commencé, la première grosse visibilité que j'ai eue quand même à la télé, c'était suite à une émission de Laurent Ruquier qui s'appelait On ne demande qu'à en rire, où on notait les humoristes et tout. Je vous en supplie, ne mettez pas ça dans vos archives, sinon je sais pas ce que je fais.
Même le pire des acteurs peut vous dire que jouer la comédie, c'est un métier. Et vous jouez très mal la comédie. Vous ne savez pas vous tenir en scène, vous bougez, vous ne savez pas porter une robe, vous ne savez rien faire.
Et je pense que elle ne sait pas porter une robe, il est vraiment d'un ancien temps. Là, je me suis dit, je suis en train de me prendre un truc dans la gueule, que je me prends seulement parce que je suis une femme et que je suis polie, quoi. Quand j'ai commencé, donc on est en 87 à l'époque, je m'en rappelle très bien, j'ai appelé le Don Camillo parce que je voulais jouer dans un cabaret. Je dis bonjour madame, je dois passer une audition pour passer au Don Camillo. Elle me dit, vous êtes une femme? Je dis, bah oui, bah désolé, ça ne nous intéresse absolument pas. Bon, ça commence bien.
J'avais été contactée par un producteur de gros truc qui s'appelait Juste pour rire. Et il m'avait dit, ah là, je t'adore, je veux te trouver là. Et après, il m'avait dit, ah ouais, mais ouais, là, il y a déjà deux filles qui marchent. Il n'y aura jamais, de place pour trois, quoi. Désolé, quoi. En fait, sur le moment, je n'ai pas été choquée. Mais maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais c'était n'importe quoi de me dire ça. Enfin, c'est 50% de l'humanité, donc a priori 50% du paysage humoristique. Enfin, il n'y a absolument aucune raison pour que ce soit le contraire, donc c'était vraiment qu'on partait de très loin.
Depuis toujours, l'humour, c'est une affaire d'homme.
Allô, le central ?
Ils remplissent les salles.
Si tu veux arrêter !
Et maîtrisent l'art de la vanne.
Salope ! Oh putain !
On fait partie d'une génération qui fait des blagues sexistes, on a grandi avec ça.
Objet du rire des hommes, les femmes en sont bien souvent exclues. Dans l'art, leur rire est mal vu. Perçu avec méfiance, redouté, sexualisé.
On voit en elles des femmes parfois provocantes, qui aiment trop le plaisir.
Il y a une forme de sensualité dans le rire. C'est le corps qui se lâche en fait.
Pendant des siècles, les femmes pouvaient rire entre elles, mais pas en public. Et encore moins faire rire. Car sous ces airs anodins, le rire est une forme de pouvoir.
Il n'y a rien de plus subversif que le rire.
Quel bordel !
C'est une manière de prendre le pouvoir, c'est sûr. Et dès qu'un pouvoir arrive, il est considéré comme dangereux.
Vous êtes venu vous divertir ? C'est bien, c'est une bonne idée.
Voici l'histoire méconnue de la conquête du rire féminin. Ou comment les femmes ont gagné le droit d'être drôles. Première guerre mondiale, la France a besoin de se divertir. C'est le triomphe du music hall et des spectacles de variété. Un art du rire, le plus souvent viril, amplifié par le boom de la radio, du cinéma et de la télévision. Une communion populaire qui s'incarne dans les premières vedettes de l'humour.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait.
La voix de Fernandel exhume le Paris de l'entre-deux-guerres, l'ambiance du cabaret et la tradition de la chanson pour rire. En 1939, la gloire comique nationale interprète une petite histoire qui va devenir un grand hit de la culture populaire.
Félicie aussi. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie, oh si, je pensais les arbres pour jaunes et les queues.
Fernandel, c'est quand même d'abord une trogne, une gueule, hein, absolument immanquable, ce qui donne de toute façon à la chanson un gage de sympathie. On voit le professionnel du rire qui connaît son métier à la perfection, jusqu'à la moindre grimace, jusqu'au moins une façon de bouger le sourcil, de se taire, de faire la moue, la façon d'accentuer telle ou telle syllabe.
Près de nous, si fait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie ? Oh si. Un clocher sonnait tout proche, il avait une grosse cloche. Félicie ? Oh si.
Un monument historique qui convoque un incontournable du rire.
C'est quand même le portrait, évidemment, d'une femme que l'on va railler pour son physique ou pour sa sottise, avec ce refrain binaire extrêmement efficace, Félicie aussi, qui se mémorise parfaitement.
C'est une chanson très facile à retenir, on la chante. Simplement le fait de dire Félicie et que quelqu'un au bout de la pièce va dire aussi, ben ça marche.
Oui, un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit.
C'est une femme de Provence, c'est une femme disgracieuse qui vient juste d'arriver à Paris alors que lui arrive en taxi. Donc il y a quelque chose de la lutte des classes, de la lutte des sexes. C'est des choses que tout le monde peut comprendre. Elle ne sait pas se comporter, elle ne sait pas se comporter à table, elle ne sait pas se comporter à l'hôtel. On rit contre Félicie et avec celui qui chante.
Là, on voit quand même très très bien comment le rire repose sur le triangle. Vous avez à la base le rieur et son complice, et puis évidemment en haut du triangle vous avez la cible qui dans une chanson comme Félicie est évidemment la femme.
Bah oui, en effet, c'est le summum quoi. C'est genre la femme elle veut de l'argent, elle est moche, elle est machin, et son seul intérêt c'est qu'elle va se faire ken.
Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite.
C'est une parodie, une carnavalisation grotesque du corps féminin. Et on a comme ça une série de déclinaisons qui ridiculisent de plus en plus et qui vont de plus en plus loin dans l'obscène.
Cette objectivation du corps de la femme, évidemment, relève d'une tradition misogyne, ce qui d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, était mieux venu sans doute dans la bouche de Fernandel, qui n'était pas non plus un canon de beauté, donc il lui-même a souvent eu l'occasion de plaisanter sur son propre physique.
Et ça va toujours finir par tourner autour du physique, parce que c'est toujours le cas chez les femmes, tu peux dire ce que tu veux, tu peux être la meuf la plus brillante du monde, tu peux avoir 18 Nobel, il y aura toujours quelqu'un qui va dire « ouais, mais t'es moche ».
Il y a quelque chose, où on est, mais le physique est soumis au regard de l'homme, à la norme, et on en rit tous ensemble. Et puis, enfin là, je dis ça, Félicie aussi, je suis sûre que dans le public qui est fou, il y a énormément de femmes aussi qui rient. C'est un espèce de truc où on se rassure soi-même en n'étant pas la cible, c'est le bouc émissaire, en fait.
Ouais, c'est se moquer du physique d'une femme qui est un peu disgracieuse, mais... Enfin, je sais pas, moi ça me fait rire. Je suis pas en train de me dire « Ah, oh, c'est misogyne, tu n'as pas le droit de rire de... »
L'Orieuse devient la principale industrie culturelle française. Un divertissement de masse, trusté par des hommes, à l'image de la société d'alors.
À cette époque-là, qui font la politique, ce sont eux que l'on entend parler, ce sont eux qui ont le pouvoir, que ce soit donc dans l'espace public ou dans l'espace privé.
Ce qui est masculin, c'est la capacité à faire rire en société. Pourquoi on rit des femmes? On rit des femmes parce qu'elles sont supposées moins drôles elles-mêmes. On se moque aussi des travers traditionnellement assignés au féminin. Les femmes bavardes, les femmes ivres, les femmes qui ne savent pas s'habiller, ou les femmes au contraire qui en savent trop, les coquettes.
Les femmes sont toujours renvoyées à des caractéristiques bien spécifiques, la douceur, le côté parfois d'une moindre compétence, d'une moindre intelligence quasiment, ou le côté chiant par exemple. Ça c'est des choses qui font presque partie d'une représentation stéréotypée, en tout cas réductrice.
Depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arts ménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles.
Le rire gaulois s'accommode sans complexe d'un sexisme ordinaire. Dans les années 70 et 80, la blague misogyne est revendiquée comme plaisir coupable.
Celle-là, bon, elle est un peu macho, mais enfin...
Oui, elles nous pardonneront parce qu'elles nous aiment quand même, comme nous sommes.
Ce n'est pas la peine de faire de l'humour avec les femmes, puisqu'on les fait beaucoup plus rire en les chatouillant.
Oui, c'est vrai.
C'est l'âge d'or d'un humour grivois et impertinent.
Ma femme est tellement laide, elle peut pas être aussi moche que la mienne. Hein.
Une liberté de ton aussi jubilatoire que stigmatisante.
Il ouvre la trappe, il dit « Geneviève !» Alors on entend une voix qui dit « Oui, viens !» Il dit « Je dois mettre mon masque ?» Il dit « Non, non, c'est pas pour te baiser, c'est pour te faire voir !»
L'objectif de ce rire-là, pour moi, c'est vraiment de toujours jouer sur des vieux codes, mais alors très anciens, sur des distinctions de sexe. Les hommes, les femmes, le lâcher de salope. La femme est réduite à la salope, c'est-à-dire elle est réduite à son corps.
Les enfants qui nous regardent, tonton Jean-Marie va dire des gros mots, mais c'est pas méchant. Hein ?
Mais effectivement, le sketch du lâcher de salope, c'est vraiment un sketch assez quand même emblématique, on va dire, de ce type de rire ou d'humour très misogyne.
J'ai écrit ce sketch avec mon ami Laurent Baffy, on s'est dit « Pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas l'homme chasseur, tu sais, quand on remplace le gibier par le beau sexe ?» Voilà, ça c'est fait, je vous l'ai dit. Voilà, vous êtes prêts maintenant ?
Alors on est parti.
Oh putain ! Je suis en colère! Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, non?
Le jeu, c'est de se montrer soi-même encore plus viril dans une société où les lignes bougent comme ça tout doucement. Oh, bah il y a un lâcher de salope, et là je sais que je suis un homme.
Oh, bah j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage, hein. Attends, tu t'approchais d'elle? Elle s'est sauvée pas? Elle restait là! Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer!
Dans ce rire-là, il y a quelque chose du boys club en fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'être ensemble, entre garçons, et dire ah, c'est bien drôle, dis donc. Donc le rire, en fait, il vient juste confirmer, c'est du lien en fait, c'est de la colle.
Ça assure une cohésion masculine sur une image de prédateur très entreprenant mais qui a du mal à parvenir à ses fins. C'est l'énigme de la séduction qui se joue là aussi. Pourquoi les femmes choisissent certains hommes et pas d'autres?
Je sais pas si c'est la place de cette émission pour dire ça, mais ça c'est des blagues de mecs qui veulent faire l'hélico avec leur bite. Enfin, je veux dire, c'est des blagues de mecs qui montent leur cul en fin de soirée. Enfin, c'est-à-dire que ça contribue au mythe du type beauf, du mec beauf, ce qui est, je pense, extrêmement aussi violent pour plein d'hommes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle-là.
En 2004, Jean-Marie Bigard jouait ce sketch devant des salles pleines et s'offrait même le Stade de France. Une grossièreté assumée par son co-auteur, Laurent Baffy.
Maintenant, quand vous repensez à ce sketch-là, comment vous le voyez?
Aussi drôle, aussi bon, et on peut rire des choses sans s'inscrire en vrai dans ce qu'on raconte. Moi, je sais quelle est la lecture du sketch. Maintenant, je ne vais pas passer ma vie à éduquer les gens en disant « là, c'est de l'humour, là ». Les gens, ils prennent, ils retiennent ce qu'ils veulent d'une chanson, d'un film, et parfois, on met des choses qu'on n'imagine pas. Et peu importe, Jean-Marie Bigard et moi, quand on a écrit ce sketch, ça nous a fait rire de dénoncer des gros cons. Après, on nous a collé une étiquette macho qu'on assume, parce qu'on fait partie d'une génération qui fait des blagues sexistes, on a grandi avec ça. Moi, j'ai déconstruit par Bedos, par Coluche et toute cette génération des proches. Salope de Guy Bedos, ça aussi, c'est un sketch qui appelait Scandale à l'époque, un sketch que je connaissais par cœur.
Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces nanas! Ah la vache! Qu'elles sont belles! Ah les salopes! Salopes!
Oh putain, celle-là dit oh la pute!
Je crois que la misogynie, oui, elle vient du fait que l'homme est plus fort physiquement, donc il écrase les femmes, et dans tous les domaines, y compris l'humour. Et je pense pas que les femmes soient aussi... Et cette volonté d'écraser l'autre comme l'ont les mecs, ça c'est inhérent au profil masculin. L'humour misogyne marche depuis la nuit des temps.
Depuis toujours, on se moque d'elle, parce qu'on sait que c'est Ève qui a donné la pomme à manger à Adam, donc déjà c'était un mauvais départ. On voit en elle des femmes qui aiment trop le plaisir, qui sont parfois provocantes. Et puis, quand elles commencent à avoir un certain savoir, eh bien, elles deviennent des rivales, donc c'est dangereux.
On rit des femmes, et la femme qui rit, en retour, fait peur. Dès le Moyen-Âge, la religion chrétienne associe le rire au diable et influence sa représentation dans l'art. Cette manifestation physiologique qui secoue le corps et le déforme, les peintres vont soigneusement éviter de la dessiner. Le rire éloignerait la femme de la beauté. Seuls les génies flamands osent au XVIIe siècle esquisser des ricanements.
On va trouver le rire dans les scènes de taverne, c'est-à-dire à des moments où on a bu, où on ne maîtrise plus son corps, ou alors dans des scènes populaires, parce que dans la vision classique des choses, le peuple ne sait pas nécessairement bien maîtriser ses passions.
Les rieuses sont plutôt stigmatisées du côté d'une bouche ouverte qui va vers la laideur, vers l'ivrognerie, vers une déraison, voire un abandon du corps. Donc c'est très rarement valorisant.
Je pense que pour le peintre, c'est un travail extrêmement intéressant. Vermeer en particulier, par exemple. Mais avant, il y a Bruegel, où on voit des femmes qui rient. Et généralement, c'est au détriment de leur beauté. Ça déforme tout à fait le visage, ça gonfle les joues, ça fait des rides. Donc elles ne sont plus jolies.
Sur la toile, le rire féminin suggère les vices, la luxure et la méchanceté.
Le tableau surnommé « La bohémienne » de Franz Hals, en réalité, n'est pas une bohémienne. C'est le titre qu'on lui a donné quand il est entré au musée. C'est probablement une prostituée, donc qui, effectivement, ouvre sa bouche, rit. D'ailleurs, les études de radio nous ont montré qu'elle était, au départ, plus habillée qu'elle ne l'est sur l'image que nous voyons aujourd'hui. Donc le peintre, d'une certaine manière, l'a déshabillée et l'a fait rire, parce qu'elle est censée aguicher le spectateur. On peut trouver aussi des représentations où on va avoir des femmes âgées, riant, et particulièrement, évidemment, des sorcières, parce qu'elles ont déjà leurs traits déformés.
On associe le rire à la sorcière parce que la sorcière est une femme qui en a rien à foutre de rien et qui est très libre, qui est très puissante, et c'est une femme en fait qui est en mode, comme diraient les jeunes, balèque. Donc elle rit, elle fait ses petites potions, voilà. Et d'ailleurs, historiquement, les sorcières, c'est aussi des femmes qui ne rentraient pas en fait dans les codes de ce qu'on attendait d'une femme et qui pour ça ont été brûlées.
Dans les représentations de rire, c'est quand même étonnant de se dire qu'on représente les méchantes ou les sorcières en riant. Enfin, et d'ailleurs, les gentils sont souvent soit endormis, attendent un baiser, soit empoisonnés. Enfin, donc ça raconte quelque chose. Je ne sais pas si on a vu beaucoup d'héroïnes vraiment très heureuses, quoi. Donc très rieuses.
Rieuses, non. Souriantes, bien volontiers.
Du XVIe au XVIIIe siècle, il y a toute cette codification de la beauté féminine, comme par exemple avec le portrait de Madame de Sorquinville par Perronneau.
L'art du portrait dessine depuis la Renaissance un idéal féminin, de pudeur, de retenue et d'harmonie.
Elle a ce très léger sourire qui est à la fois accueillant pour le spectateur et son visiteur et qui en même temps adoucit ce que la pose pourrait avoir de rigide ou de convenu.
Le sourire permet d'être charmant, de ne pas trop en dire, alors que le rire provoque une adhésion et une proximité que n'a pas le sourire. Le sourire tient à distance et il est donc l'apanage des femmes bien élevées.
La femme doit être figée, elle doit être là où les hommes ont décidé qu'elle doit être. Elle est posée, figée, légèrement souriante, au mieux d'être les mains croisées. Tiens, on a la Joconde.
La Joconde, qui est, c'est une femme fermée, hein, ça fait parler beaucoup les écrivains. Hein. Alors Paul Valéry dit, elle n'avait rien à dire, il n'y a rien à chercher derrière, c'est un rire muet.
À la fin du XVIIIe siècle, pour qu'une artiste ouvre le sourire d'une femme de bonne famille, Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste à Versailles, présente au Salon du Louvre une œuvre en apparence inoffensive.
C'est une artiste extrêmement virtuose et qui va rompre certains, entre guillemets, interdits autour du sourire en représentant en particulier les dents.
Dans son autoportrait avec sa fille, son sourire ultra bright est inédit en peinture.
À l'époque, ça fait scandale parce que on ne représente pas les dents pour différentes raisons. Parce que les dents, c'est ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche n'est pas convenable. Et par ailleurs, il faut aussi savoir qu'au XVIIIe siècle, on n'allait pas tout le temps chez le dentiste. Donc la dentition n'était pas nécessairement de très belle qualité. Les femmes riaient derrière un éventail. Et donc lorsque Madame Vigée-Lebrun, dans son sourire,